physique quantique, bon, c'est un sujet certainement un petit peu inconnu pour vous. En fait, l'idée de l'exposé, c'est d'essayer de vous montrer un peu comment fonctionne la mécanique quantique et la physique quantique en se basant sur la lumière. La lumière, ça, par contre, tout le monde connaît, mais la lumière, c'est un peu mystérieux aussi. Vous avez probablement entendu dire que ça peut être vu comme une onde, ça peut être aussi vu comme des corpuscules, et justement, cette question est au centre de toute la problématique de la physique quantique. Donc, je vais essayer de me servir de cette problématique de la lumière pour vous parler de physique quantique. Alors, vous savez aussi probablement que cette année, c'est le 50e anniversaire du laser. Il y a eu des grandes festivités à Paris, peut-être ici aussi. Donc, le premier laser a lasé il y a juste 50 ans, 1960, et il a envahi notre vie quotidienne. Vous ne le savez peut-être pas, mais le laser est partout. C'est dans mon ordinateur, dans tous les lecteurs de CD, de DVD, il y a des lasers. Si vous utilisez Internet tous les jours et toutes les nuits, c'est parce que des faisceaux laser passent sous les océans dans des fibres optiques. Et c'est ça qui a permis le développement gigantesque d'Internet. Donc le laser est vraiment dans nos vies quotidiennes, je vais vous en dire un petit mot. Le laser fait donc émet une onde lumineuse, mais la lumière c'est aussi composée de photons. Alors le photon, lui, il a 150 cette année, puisqu'il a été, disons, proposé par Einstein en 1905. Je vais revenir dessus tout de suite. Donc en fait, c'est sur cette affaire de lumière à la fois onde comme dans un laser ou particule puisqu'il y a des photons, je vais un peu centrer mon exposé. Donc d'abord le laser. Alors le premier laser, donc c'est initialement, en fait ce qui a marché avant le laser, c'est ce qu'on appelait le maser, avec un le L ici c'est pour light, c'est pour lumière. Avant c'était maser, c'est pour micro-ondes. Et la première source qu'on appelle cohérente d'ondes, presque lumineuse, a été faite dans le domaine des micro-ondes, un petit peu comme un espèce de four à micro-ondes qui émettrait un faisceau très monochromatique. Donc les gens qui ont trouvé ça, qui s'appelaient Shallow et Tone, ont en fait déposé un brevet en 1958 pour faire marcher un laser qui émettrait une onde lumineuse très très pure. Et ils ont essayé de la faire marcher, et ça c'est ce qu'on appelle la physique expérimentale, ça n'a pas marché. Ils ont essayé pendant longtemps, pendant plusieurs années, ça marchait toujours pas. Et donc c'est plutôt un espèce de bricoleur, enfin un gars un petit peu en dehors du circuit, qui s'appelait Thomas Maiman, mais qui avait quand même des crédits de recherche, qui a fait fonctionner le premier laser. Donc comment ça a marché? Donc l'idée c'est d'un laser, c'est toujours le même, on prend un matériau qui va en fait amplifier de la lumière. Il faut communiquer de l'énergie à ce matériau, et puis s'arranger pour qu'il restitue cette énergie sous forme d'une onde lumineuse extrêmement directive et très pure, qui est précisément le faisceau laser. Donc c'était un peu bricolé, il avait pris ce truc-là, qui est en fait un flash d'appareil photographique, qui a une forme de spirale, qu'on voit ici. Ce flash éclaire un matériau, qui dans son cas était du rubis, donc c'est des ions de chrome dans un cristal d'alumine. Donc l'énergie du flash est absorbée par les atomes, stockée, et puis ensuite restituée sous forme d'un faisceau. Donc si on peut le voir un petit peu mieux, voilà le flash, le rubis, et donc ce qui se passe, c'est que on attend un petit peu, donc on charge les condensateurs, ça devrait arriver, voilà, il y a un flash, donc il y a de la lumière qui apparaît dans le cristal, et toute l'astuce, c'est qu'il y a deux miroirs, en fait, sur les deux extrémités du cristal. Donc la lumière se met à faire des allers-retours, et puis finalement sort sous la forme d'un faisceau extrêmement directif, qui est un faisceau rouge, que vous avez probablement vu de nombreuses fois, qui est donc ce faisceau laser. Donc voilà ce que c'est le laser. Ça, c'était le tout premier. Maintenant, les lasers les plus utilisés sont ce qu'on appelle des lasers à semi-conducteurs. Donc, il n'y a plus de flash, c'est simplement un courant qu'on injecte dans un matériau qui est un semi-conducteur. Et puis, de la même façon, on lui communique de l'énergie, il y a deux miroirs, et on sort un faisceau qui est donc extrêmement directif, parce qu'il est défini, sa direction est définie par deux miroirs. Et aussi, il est extrêmement monochromatique, c'est-à-dire que sa fréquence ou sa longueur d'onde est extrêmement bien définie. Alors, comment ça marche le laser? En fait, le premier, donc, c'est ce que je viens de vous raconter, mais d'où vient l'idée? L'idée, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'atomes convenablement préparés peuvent amplifier le rayonnement par ce qu'on appelle émission stimulée. Convenablement préparés, ça veut dire qu'on les a excités, on leur a communiqué de l'énergie, et puis ensuite, si on envoie de la lumière, cette lumière qui fait des allers-retours est amplifiée, c'est-à-dire qu'elle a de plus en plus d'intensité, et donc, il faut... Donc cet effet de ce qu'on appelle d'émission stimulée, le fait que le milieu convenablement préparé se comporte comme un amplificateur. Ce qui est amusant aussi, c'est que ça démarre tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a communiqué l'énergie, il y a quelques photons, quelques petits grains d'énergie qui apparaissent, qui se mettent à faire des allers-retours, et comme le système est automatiquement amplificateur, ça génère le faisceau. Autrement dit, il n'y a pas d'oscillation initiale, l'oscillation apparaît toute seule lors du fonctionnement du laser. Alors, qui a eu cette idée? Einstein, donc en 1917. En fait, c'est beaucoup plus vieux. Donc, l'idée elle-même, c'est amusant aussi à regarder, l'idée elle-même a été formulée par Einstein, l'idée de l'amplification stimulée a été formulée par Einstein en 1917, il avait à peu près cette tête-là, et puis, donc, beaucoup d'années plus tard, ça s'est mis à fonctionner. Et Einstein, évidemment, quand il a inventé son émission stimulée, n'avait aucune idée de laser en tête. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une étude théorique abstraite sur ce qu'on appelle la loi de Planck, c'est-à-dire une loi thermodynamique de l'émission d'un corps chauffé. Et à partir de cette étude thermodynamique, il en avait déduit qu'un milieu doit pouvoir amplifier la lumière. Et puis, cette idée est restée, en quelque sorte, en suspens pendant de très nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle soit reprise pour créer des lasers. Voilà, donc ça me permet de parler d'Einstein. Donc Einstein, là, vous le connaissez, il a eu de très très nombreuses contributions majeures à la physique, la relativité restreinte, les histoires de référentiels qui ont un mouvement relatif à vitesse constante, donc le temps s'écoule différemment, l'espace se comporte différemment, la relativité générale, la même chose quand les référentiels sont accélérés l'un par rapport à l'autre, l'émission stimulée, j'en ai parlé, et puis la photonique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Einstein a introduit l'idée que la lumière pouvait être des petits grains d'énergie. Donc ça, c'est un article très célèbre de 1905, c'est pour ça que je dis qu'il y a 105 ans, et il parlait de quoi, à l'époque, même pas de photons, mais de quanta de lumière, Lichtquanten, dans cet article. Donc, Lichtquanten était des petits grains d'énergie, qui avait une énergie définie par E égale H nu, donc nu c'est la fréquence de la lumière, et H c'est une constante qui a été introduite par son collègue Planck, qui caractérise, donc qui relie la fréquence de la lumière à l'énergie de ce petit grain. Alors, évidemment ça vous l'avez entendu 50 000 fois, mais il y a un problème, et ce problème a sauté à la figure des gens à l'époque, c'est qu'est-ce que vous nous racontez là ? Vous venez de nous dire que la lumière, c'est une belle onde parfaitement monochromatique avec une fréquence complètement définie. Et puis maintenant, vous nous dites, c'est un grain d'énergie. Alors, il faut pas dire, mais les physiciens, ils sont un peu fous. Les physiciens, quand ils ont entendu ça, ils se sont vraiment énervés. Ils n'étaient pas contents du tout, parce qu'ils n'y comprenaient plus rien. Il est absolument non trivial d'arriver à faire coexister une notion d'onde et une notion de corpuscule. Et c'est pour résoudre ce problème, en fait, c'était une question extrêmement subtile, qu'il a fallu, en fait, réformer toute la physique. Rien que pour faire passer cette idée, pour pouvoir gérer cette possibilité d'être à la fois une onde et un corpuscule, ou bien ni l'un ni l'autre, il a fallu remettre la physique complètement à plat, et ça a été fait dans les années 1900. Donc, c'est un petit peu l'introduction. Je vais revenir sur cette affaire. La lumière onde et particules, donc c'est bizarre. Alors, si on vous le dit de manière, je vais le dire de façon différente, d'abord comme ça, comme on le fait souvent, et puis après, en parlant de polarisation de photons, c'est un peu le même problème, mais on peut le rendre encore plus bizarre. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu dans quel contexte ça peut être utilisé. Alors, la lumière onde ou particules, alors, c'est une question aussi vieille que l'humanité, presque. Disons ça, c'est par exemple... les Égyptiens, la façon dont les Égyptiens voyaient la chose. Donc ça, c'est la princesse Tapéré qui prend un bain de soleil. Et vous voyez que le soleil, les rayons du soleil sont représentés par, d'après les égyptologues, ça, là, c'est pas des photons, c'est des fleurs de lotus. Et donc la princesse baigne dans les fleurs de lotus. Donc ça veut dire que les Égyptiens voyaient la lumière un petit peu comme des particules, des fleurs. Bon, c'est pas mal, c'est poétique. Donc ça, c'était il y a très longtemps, 900 avant Jésus-Christ. Après, il n'y a pas eu de théorie immédiate de la lumière, mais il y a eu beaucoup d'ouvrages. Par exemple, est-ce que la lumière, c'est quelque chose qui de l'objet vers vos yeux ou de vos yeux vers l'objet? Est-ce que c'est vos yeux qui éclairent l'objet? Alors, quand il n'y a pas de lumière, on se rend bien compte qu'on ne voit plus rien. Mais, alors, d'où vient la lumière? Est-ce qu'elle vient de l'objet? Est-ce qu'elle vient d'une source? Enfin, toutes ces questions ont été agitées pendant très longtemps. On a découvert aussi d'autres choses, au Moyen-Âge par exemple, donc ça c'est le Moyen-Âge, c'est des pèlerins, Saint-Jacques de Compostelle. Vous voyez que le pèlerin, là, il a des lunettes. Donc c'est une des premières représentations connues de lunettes, c'est-à-dire que les gens ont découvert que si on prend un morceau de verre avec une forme oblongue, eh bien si on est très myope, on se met à voir mieux, ce qui est un peu miraculeux, mais c'était complètement empirique à l'époque. Donc les vraies questions techniques, scientifiques, disons, sur la nature de la lumière sont apparues en gros au XVIIe siècle. Donc il y a plusieurs grands noms, là c'est Descartes. Donc Descartes pensait que la lumière était des particules. Bon, et il a essayé d'établir des lois de réflexion, déviation de ces particules, et il a abouti aux lois de Descartes qu'on utilise toujours et qui sont toujours vraies. Donc au XVIIe siècle, il a appelé ça la dioptrique. C'était une première approche théorique, disons, de la lumière. Mais bien sûr, Descartes avait un concurrent qui s'appelait Huygens, qui était aux Pays-Bas, qui lui soutenait l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que la lumière, c'était des ondes. Et il a fait lui son petit modèle avec, en supposant que par exemple la flamme d'une bougie pouvait se décomposer en petits points lumineux, que tous ces points lumineux émettaient des petites ondes qu'il appelait ondelettes, et que toutes ces ondelettes se recombinaient pour faire quelque chose comme une vague qui représentait l'onde lumineuse. Alors donc, qu'est-ce qui vibrait? Quelle était la matière qui vibrait? C'est pas de l'eau, évidemment, c'est pas l'air non plus. L'air qui vibre, c'est de l'acoustique, c'est pas de la lumière. Donc il a appelé le milieu qui vibrait éther, sans trop savoir ce que c'était. Mais c'était un modèle aussi, on n'en savait pas tellement plus à l'époque. Après siècle suivant, 18e siècle, la Newton est arrivée. Donc Newton était une personnalité extrêmement autoritaire, il a décidé que la lumière c'était des particules, et plus personne n'a rien eu à dire, et il disait que mon but n'est pas de faire des hypothèses, mais de proposer des solutions, et de les prouver par la raison. La question était réglée, la lumière c'était des corpuscules, et puis pendant un siècle ça n'a plus été autre chose. Mais ça n'a pas duré plus d'un siècle, parce que Newton à peine enterré, les gens ont repris encore le problème les ondes sont revenues en force. Donc il y a eu des expériences qui ont été faites au début du 19e siècle, cette fois-ci par Young en Angleterre, des théories faites par Fresnel en France, et Fresnel en particulier, qui commençait à savoir manier les vrais calculs, les intégrales et tout ça, il s'est mis à calculer des trucs à partir d'une hypothèse ondulatoire, et ça marchait extraordinairement bien. Alors, il y a une petite histoire, donc le jeune Fresnel a déposé donc un mémoire à l'Académie des sciences en 1819 pour dire, regardez, j'ai fait la théorie, je prends une onde, je calcule ça, mes intégrales, et j'explique tout, j'explique les effets d'interférence, les effets de diffraction, ça marche extraordinairement bien. L'Académie des sciences avait proposé, proposer une théorie de la lumière, pourquoi pas. Donc il a déposé son manuscrit. Donc le président de l'Académie, c'était François Arago, qui était un physicien célèbre, un de ceux qui ont participé au méridien, etc., à l'établissement des cartes de longitude et latitude. Denis Poisson, c'était un examinateur, et c'était un mathématicien très célèbre. C'est le Poisson, de l'équation de Poisson, et de tout ce que vous pouvez savoir. Donc lui, c'était vraiment un matheux, lui, c'était un physicien plutôt expérimentateur. Donc Poisson a dit à Fresnel, « Ah ah ah, mon jeune ami, vous êtes en mauvaise posture, votre théorie ne tient pas debout. » Parce que clairement, je fais la chose suivante, je prends un disque noir, je l'éclaire, et votre théorie me dit que derrière le disque noir, je dois voir un point brillant. Clairement, c'est une conclusion complètement absurde, et donc votre théorie est fausse, vous repasserez l'année prochaine. Évidemment, Fresnel était un peu inquiet, c'était quelque chose comme ça, si vous voulez, vous mettez sur un faisceau lumineux, vous éclairez un petit disque noir sombre, en envoyant la lumière par là. Donc normalement, ce qu'on doit voir, c'est l'ombre de ce petit disque noir, et la théorie de Fresnel disait qu'au milieu de l'ombre du disque noir, il doit y avoir un point brillant. Donc pour Poisson, cette conclusion était absurde, comment voulez-vous qu'il y ait un point brillant au milieu d'une ombre? Donc la théorie de Fresnel était fausse. Faut se méfier du bon sens parfois. Donc Arago, qui était un expérimentateur, a dit « ma foi, on va essayer ». Donc il a fait la manip, donc c'est une expérience pas très facile à faire, qui est très facile à faire avec des lasers, mais qui n'était pas si facile à faire que ça à l'époque. Il a fait l'expérience, il l'a monté, et ce qu'ils ont vu, c'est ça. Donc ça, vous voyez ici l'ombre du disque noir. Il y a autour des espèces d'anneaux, qu'on appelle anneaux de diffraction, que vous avez peut-être déjà vu, et au milieu de l'ombre, il y a le point brillant. Donc c'était gagné. Donc tous les académiciens ont défini un par un devant le machin, ils ont regardé dedans, et ils ont vu qu'il y avait bien le point brillant et que la théorie de Fresnel était juste. Donc ça a été évidemment un triomphe considérable, et ça a établi de manière quasi définitive la théorie ondulatoire. Parce que cet effet est quand même très sophistiqué, vous vous rendez bien compte qu'il faut faire un calcul compliqué. Alors Poisson avait intuité l'effet parce que c'était un mathématicien génial, mais il a prouvé, en intuitant les faits bizarres, que justement Fresnel avait raison. Donc à partir de là, ça a été un boulevard, une autoroute, la lumière ondulatoire a triomphé de tout, on a tout pu expliquer, et ça a abouti à une espèce de monument de la physique qui s'appelle les équations de Maxwell en 1870. Bon, si vous continuez en physique, vous les verrez. C'est vraiment génial, ces quatre équations qui décrivent tout ce qu'on peut avoir à dire sur la lumière classique. Donc c'est un champ électromagnétique, c'est une onde qui se propage avec une célérité de 300 000 km par seconde, qui a été mesurée à la même époque par Foucault, Fizeau, etc. Donc en quelque sorte, c'était bouclé. Et il y a des citations célèbres de Kelvin, celui de la température, en avril 1900, qui disait donc que la science, la physique était une science achevée, parce que ça marchait trop bien, on avait tout compris, on avait les équations de Maxwell, on savait expliquer la lumière, c'était parfait. Alors il avait deux petits nuages dans le ciel bleu, disait-il, il y avait un petit nuage qui était le fait que, quand on chauffe un objet, vous savez qu'il se met à rougeoyer. Et donc on voudrait savoir qu'est-ce qu'il émet, quelle est la lumière qu'il émet. On essayait de calculer cette lumière en utilisant ce qu'on savait à l'époque, les équations de Maxwell, la thermodynamique, ça faisait une énergie infinie. Donc il y avait quand même un petit ennui, il y avait au moins un calcul qu'on ne savait pas faire, alors qu'il était faisable. La quantité de lumière émise par un corps chauffé, on peut la mesurer, mais c'était ennuyeux qu'on ne puisse pas la calculer. Et puis un autre petit nuage, c'était le fameux éther qui contraignait depuis Huygens, parce que si la lumière se déplace dans un truc, ce truc c'est l'éther. Donc la Terre doit se déplacer par rapport à l'éther. Donc ils avaient imaginé une expérience, Michelson et Merlet avaient imaginé une expérience pour mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther, et ils trouvaient zéro. Ce qui était loufoque, parce que s'il y a un éther, il n'y a absolument pas de raison que la Terre soit immobile dans l'éther. La Terre, elle tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour de on ne sait pas quoi, mais il n'y a pas de raison que la Terre soit immobile dans l'éther. Donc c'était aussi incompréhensible. Mais c'était pas grand-chose, finalement. Alors évidemment, vous connaissez probablement la suite, c'est deux pas grand-chose, ça a généré deux révolutions qui ont complètement bouleversé la physique. Donc la première chose, le coup de Michelson et Morley, l'éther, ça a été la relativité restreinte puis générale d'Einstein, et puis le coup de la lumière, du rayonnement du corps noir, du rayonnement d'un corps chauffé, ça a été la mécanique quantique. Donc Planck, Max Planck, en 1900, a réussi à calculer cette fameuse énergie émise par un corps chauffé sans qu'elle soit infinie. Il a trouvé la bonne formule, ils ont vérifié, tout se passait bien. Mais il y avait un petit problème qui est que il fallait, pour que ça fonctionne, que la lumière et la matière échangent l'énergie non plus de manière continue, mais par saut. Donc c'était un truc aussi loufoque que de dire une balançoire peut monter à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, mais ne peut pas monter à 1 mètre 50 ou 2 mètres 75. Donc c'était très très bizarre. Alors en 1905, Einstein est allé encore plus loin en appuyant vraiment très fort où ça faisait mal, et en disant, ben non, ça suffit pas, il faut en fait que la lumière elle-même soit composée de grains d'énergie. Alors là, vous voyez bien que c'était la catastrophe, parce que si c'est des grains d'énergie, quid des équations de Maxwell. Et on ne savait absolument pas faire exister les deux en même temps. Donc ces petits grains d'énergie, les quanta, les photons, donc ils ont une énergie H nu, j'ai déjà dit, une quantité de mouvement, une impulsion comme une particule qui vaut H nu sur C. Et il allait bien falloir en faire quelque chose. Alors Einstein a introduit cette idée à partir de ce qu'on appelle l'effet photoélectrique, c'est-à-dire que le fait que quand on éclaire certains métaux, on arrache des électrons, et pourrait simplement expliquer, calculer l'énergie des électrons qui sortent de la plaque, il est obligé de faire cette hypothèse E égale H. Et tout se passe bien. Mais à nouveau, cette hypothèse n'est pas compatible avec les équations de Maxwell. Donc, je vous dis, ça a été très dur. Il ne faut pas penser que la physique, c'est un long fleuve tranquille. Les gens se sont étripés. Donc, le concept de photon a été très difficilement admis. Les gens ont dit que Einstein s'était trompé, simplement. Quelqu'un qui s'appelle Robert Millikan a fait des expériences pendant 10 ans sur l'effet photoélectrique, et il a conclu que ça marchait, c'était bon, on avait bien E égale H nu. Il a eu le prix Nobel pour ça, d'ailleurs, Einstein aussi, mais il n'était vraiment pas content. Vous voyez sa tête, là. Et il dit, ça c'est une citation, « J'ai passé 10 ans de ma vie à tester les équations d'Einstein en 1905. Contrairement à toutes mes attentes, j'ai été obligé, en 1915, d'affirmer que c'était parfaitement vérifié expérimentalement, en dépit de son caractère déraisonnable, puisqu'il semblait violer tout ce que nous savions à propos des interférences de la lumière. » Donc il y a passé 10 ans, il a été convaincu que ça marchait, mais plus qu'à contre-cœur en quelque sorte, parce que ils comprenaient pas comment, à nouveau, ça pouvait être compatible avec les équations de Maxwell. Donc on avait un gros, donc ça c'était donc 1915, il y avait un énorme problème. Comment peut-on réconcilier le photon, grain d'énergie, avec les phénomènes ondulatoires et en particulier avec tout ce que la théorie de Fresnel explique si bien. Donc ça n'allait pas très bien. Et puis en fait ça a encore empiré ou ça s'est plus ou moins amélioré, c'est qu'en fait en 1925, De Broglie a émis l'hypothèse inverse. Prenons maintenant un corpuscule, un électron, par exemple, qui est censé être un corpuscule avec une masse, une impulsion, une vitesse, tout ce qu'il faut. Il a émis l'hypothèse, pourquoi ce ne serait pas aussi une onde? Et très peu de temps après, Davison et Germer ont fait une expérience d'interférence avec des électrons et ils ont vu des franges d'interférence. Donc finalement, tout se cassait la figure. Ce qu'on pensait être des ondes devenait des corpuscules et ce qu'on pensait être des corpuscules devenait des ondes. Donc en fait, c'était la catastrophe. Il n'y avait absolument plus rien qui marchait. D'une certaine façon, le problème était uniforme. Tout le monde était dans la mouise. Il a fallu, disons, pour résoudre pour sortir de cette situation dramatique, inventer la mécanique quantique. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours de mécanique quantique. C'est plutôt un petit peu, voyez, historique. Et puis, je vais donner des exemples ensuite. Donc, si on veut, par exemple, exhiber le paradoxe de la manière la plus percutante possible, on pourrait se dire, prenons un photon, un seul photon. Donc imaginons une source qui émet des photons un par un. Je vais vous montrer, on peut le faire, c'est pas vraiment un problème. Sauf que pour montrer à quel point les réticences intellectuelles étaient fortes, en 1952, Erwin Schrödinger, qui est vraiment un des pères fondateurs de la mécanique quantique, l'inventeur de l'équation de Schrödinger, qui régit tout en mécanique quantique, pensait que la manipulation des objets microscopiques uniques, un seul photon, un seul atome, un seul électron, était simplement impossible. En fait, la mécanique quantique, elle décrivait des effets statistiques, pas des effets individuels. Donc il disait, nous ne faisons jamais d'expérience avec un seul électron, un seul atome, une seule molécule. Nous pouvons imaginer que nous le faisons, mais ça entraîne inévitablement des conséquences ridicules. Les petits points, là, il disait, c'est aussi ridicule que si on ressuscitait un ichthyosaure. Et il n'avait pas vu Jurassic Park. Mais c'est simplement pour illustrer le fait qu'il n'y croyait pas en quelque sorte à ces objets bizarres qui étaient à la fois ci ou à la fois ça. Donc maintenant, je vous le dis et je vais vous le montrer, c'est très courant, on le fait tout le temps. Attraper un électron, attraper un photon, c'est plus un problème. Donc ce qui est en quelque sorte, ce qui semblait inadmissible et vraiment choquant à Schrödinger, qui lui-même avait inventé la mécanique quantique, c'est devenu la physique de tous les jours. Donc, je modernise le décor. On peut imaginer quelque chose qui serait le cauchemar de Schrödinger, qui serait une source qui émette des photons un par un. Donc, c'est une espèce de pistolet. Puis, chaque fois que j'appuie sur le bouton, hop, j'ai un photon et un seul. Voilà. Et je peux le faire quand je veux, comme je veux. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Pardon. C'est un pistolet à photons. Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un photon, le H nu dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une énergie extrêmement faible. C'est tellement faible qu'une lampe ordinaire, comme celle-là, émet 10 puissance 20, beaucoup de milliards de milliards, de photons par seconde. Et j'en veux qu'un seul. Comment je peux faire? Une solution possible, c'est de dire, je vais prendre un seul atome. Si j'ai un seul atome, et que je l'excite, je vais avoir un seul photon. Évidemment, on a l'impression de reporter le problème, parce que dans un petit morceau de n'importe quoi, il y a aussi 10 puissance 20 atomes. Mais en fait, isoler un seul atome, c'est pas si difficile que ça. Et si on arrive à se débrouiller pour avoir un seul atome, qu'on l'éclaire avec un faisceau laser qui contient des myriades de photons, l'atome unique va être excité, et si on attend, il va émettre un seul photon. Donc vu comme ça, c'est pas si simple, pas si compliqué que ça. Il faut essentiellement que j'arrive à mettre un petit atome unique sous mon microscope ici. Alors, il y a plein de façons de faire ça, actuellement, c'est fait dans beaucoup de labos. Donc, le petit machin unique, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un atome, une molécule, ce qu'on appelle une boîte quantique. Il y a de nombreuses méthodes pour réaliser cette expérience. Donc, je vous parle ici de la plus simple, en quelque sorte. Donc, ça utilise du diamant. Le diamant, vous savez ce que c'est du carbone, qui est bien arrangé, ça fait des beaux cristaux, où il n'y a que du carbone. En fait, c'est pas vraiment vrai, il n'y a pas que du carbone. Il y a aussi ce qu'on appelle des centres colorés dans le diamant. Donc c'est essentiellement des petits atomes isolés qui se promènent là-dedans, mais qui sont fixes, ils sont à un endroit fixe. Et ce centre-là, qui s'appelle NV, c'est un atome d'azote, c'est nitrogène, et une lacune, une absence d'atome, qu'on appelle vacancy, c'est le V. Et ça, c'est une espèce de molécule qui est toute seule dans son petit bout de diamant. Alors autour, il y a beaucoup d'atomes de carbone. Donc en fait, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez un bout de carbone transparent, puisque c'est du diamant, et puis là-dedans, un petit atome. Et si vous éclairez avec un microscope, dans une zone de taille raisonnable, vous pouvez très bien n'avoir qu'un seul atome. Et donc, vous avez votre atome unique sous le microscope. Alors, ça peut être aussi dans un petit grain. Et finalement, c'est pas si difficile que ça, présenté comme ça. Je me débrouille pour avoir un petit bout de diamant avec une concentration relativement faible de ces centres NV. Je le mets sous le microscope, j'éclaire, je dois voir un seul atome. Alors, à quoi ça ressemble ? Alors, d'abord, oui, petite manip, comme on dit. Le microscope, le petit bout de diamant. Il faut l'éclairer, donc on l'éclaire avec un laser, par exemple. Il faut le trouver, donc on promène le faisceau laser en balayant comme ça pour essayer de trouver le petit atome. Et lorsqu'il a, alors c'était marqué ici, cet atome, enfin ce centre NV, peut absorber de la lumière verte et émettre de la lumière rouge. Donc on lui fait absorber de la lumière verte, il émet de la lumière rouge, on se débarrasse de la lumière verte avec ce qu'on appelle un filtre interférentiel, donc ça élimine le vert. Et puis, si on a un faisceau rouge, de la lumière rouge qui sort, et cette lumière rouge devrait être des photons uniques. Alors pourquoi des ? Ben, à chaque fois qu'on excite l'atome, on aura un nouveau photon unique. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble un atome unique ? Voilà. Bon, d'abord, quelle est la taille d'un atome unique ? Qu'est-ce que je vois ici ? Qu'est-ce que je vais voir si je mets un atome unique sous un microscope ? Vous savez ça ? Pardon ? Si, regardez ça, c'est un atome unique sous un microscope. Alors, quelle est la taille de cette tâche ? Elle est quoi ? Pardon ? Alors, justement, c'est pas 10-13 cm. Non, pas du tout. Ça, c'est la taille de l'atome. Oui. Mais là, vous voyez bien que c'est des microns. Ça fait absolument pas 10-13 cm. Ça fait plutôt un micron. Donc un micron, c'est 10-6 mètres. Donc c'est 10-6 mètres et pas 10-9 mètres. Donc il manque un facteur 1000. Donc mon atome, en fait, il est 1000 fois plus petit que ça. Mais pourquoi je vois ça ? Oui ? Pardon ? Oui, le premier rang, c'est, mais le dernier rang, là-bas. Vous savez ce que peut voir un micron ? Oui ? Oui, ça c'est l'émission, c'est la lumière qui sort de l'atome, ça c'est clair. Ce que je vois, c'est de la lumière qui sort de l'atome. Mais ma question c'est, pourquoi je vois une tâche qui fait un micron alors que la taille de l'atome est 1000 fois plus petite ? Vous savez comment... Voilà, c'est la diffraction. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est de la lumière. Et quand on regarde dans un microscope, le plus petit point que peut voir un microscope, c'est en gros la longueur d'onde de la lumière. Et la longueur d'onde de la lumière visible, vous le savez, ça on l'apprend en terminale, c'est à peu près un micron. D'accord ? Donc la tâche qu'on voit, ça correspond en fait à ce qu'on appelle la limite de résolution ou la limite de diffraction du microscope, et ça correspond à une tâche qui est associée au fait que la lumière est une onde précisément et qu'elle a une longueur d'onde. Et le vrai atome, il est en fait 1000 fois plus petit, mais il n'y en a qu'un, je vais vous montrer tout à l'heure, il est caché là-dessous. Alors, combien on récupère de photons uniques ? Là, vous voyez, on éclaire notre atome, on a à peu près 20 000 photons par seconde. Je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, mais en tout cas, ça permet facilement de faire l'expérience et donc de voir notre atome. Alors, je vous garantis qu'il n'y en a qu'un. Ici, c'est du carbone, donc le carbone n'émet pas de lumière. Et le point brillant, ici, c'est donc un atome unique. Et je vais vous montrer pourquoi, après, on est sûr qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, comment être certain qu'il n'y en a qu'un seul ? Alors là, il faut s'accrocher un peu, mais on y va quand même. Pour être certain, donc j'éclaire mon atome, j'attends, et je veux être sûr que chaque fois je récupère une impulsion lumineuse, je veux être sûr qu'elle contienne qu'un seul photon. Alors d'abord, si je prends je vais le redire tout à l'heure. Alors, donc, comment on essaye d'être sûr d'en avoir qu'un ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de partager ce photon en deux et l'envoyer vers deux détecteurs. Si on n'a qu'un seul photon, eh bien, il est impossible que ces deux détecteurs, donc c'est des photodétecteurs, ils transforment le photon en électron, il est impossible de récupérer deux photons. Donc c'est impossible d'avoir deux clics, un ici et un là, parce que ça voudrait dire qu'on a eu deux photons. Donc si j'ai vraiment qu'un photon à la fois, quand celui-ci fait clic, celui-là il ne doit jamais faire clic, et puis inversement, si celui-là fait clic, celui-là ne doit pas pouvoir le faire. Donc en fait, je vais regarder les doubles clics, et si je n'ai pas de double clic, ça me prouvera que je n'ai jamais de double photon, de paire de photons. Alors par contre, je peux avoir des doubles clics si je prends un photon dans une impulsion et un photon dans une impulsion suivante. Donc ce qui est interdit, ce sont les doubles clics en même temps, les doubles clics pas en même temps, décalés d'une impulsion, sont eux parfaitement autorisés, puisque c'est deux photons différents émis successivement. Donc on commence par faire l'expérience avec un laser, par exemple, donc on atténue beaucoup un laser. Alors un laser, c'est pas un photon, c'est des paquets de photons. Et donc vous voyez ici, à délai nul, c'est-à-dire un double clic simultanément, j'ai des coups, c'est-à-dire j'ai des doubles clics qui me disent que deux photons peuvent arriver en même temps, ou ils peuvent arriver décalés. Mais là, j'ai rien fait pour être sûr d'en avoir un. Donc ça, c'est ce que j'ai avec une impulsion laser ou une lampe ou n'importe quelle source ordinaire qui n'est pas un atome unique. Et maintenant, si je refais cette expérience avec mon atome unique, le pic central disparaît. Donc ça veut dire que, ici, je vous rappelle, donc c'est des photons qui arrivent en même temps, tous les deux dans la même impulsion. Là, il y en a parce que c'est un laser, et là, il n'y en a plus parce que c'est un seul atome. Vous allez me dire, il n'y en a pas vraiment plus, il reste un petit machin là. Ok, no body's perfect. C'est des petits défauts expérimentaux liés au fait que le diamant émet quand même un petit peu de lumière et que le diamant, lui, a beaucoup d'atomes. Mais pour l'émission de l'atome unique, qui est, donc on voit ces pics qui correspondent donc à des photons successifs, mais à l'intérieur d'une impulsion, on ne peut pas avoir de photons simultanément. Donc ça prouve à la fois qu'on n'a qu'un seul photon à la fois et puis aussi qu'il n'y a qu'un seul atome émetteur. Alors, une autre vue de un peu la même chose. Donc, je reprends ici ma source à photons uniques. Donc, c'est toujours la même avec les petits grains de diamant. Là, c'est des espèces de paquets. Donc, chacun de ces paquets contient un photon et un seul. Je peux, en fait, donc ça s'appelle, c'est un petit dispositif inventé par Fresnel. Ça s'appelle un biprisme de Fresnel. Je divise mon faisceau en deux morceaux avec deux petits prismes. Donc, ce prisme dévie une partie du faisceau ici. Et ce prisme dévie une partie du faisceau là. Et à nouveau, je compte les doubles clics. Et à nouveau, si c'est vraiment des photons uniques, je ne dois pas en avoir. Donc là, j'ai un petit film. On le voit en vrai, vous voyez. Donc là, c'est les photons qui arrivent. Les pics qu'on voit, c'est donc un clic ici et un clic là, mais avec un retard. Et puis, il faut regarder au milieu. Et au milieu, à nouveau, il n'y a rien ou pratiquement rien qui est le fait que si un photon arrive dans une impulsion, il va soit là, soit là. Donc il ne se partage pas, il est vraiment, il se comporte comme un jeu de pile ou face, comme un corpuscule qui va d'un côté ou de l'autre. Donc ça nous dit, ok, c'est bien un photon, et il n'y en a bien qu'un. Maintenant, c'est quand même mystérieux, parce que c'est le photon, c'est toujours aussi une onde, en un certain sens. Et comment est-ce qu'on peut voir ça? Bien, on peut se dire, au lieu de regarder ici, je vais aller regarder là. Là, j'ai mes faisceaux, ils se superposent. Et donc, classiquement, je devrais avoir des franges d'interférence. Deux faisceaux, c'est deux faisceaux qui interfèrent, donc je devrais avoir des minima et des maxima. Mais j'ai qu'un seul photon. Alors, que va-t-il se passer? Si j'ai qu'un photon et qu'il va soit là, je ne peux pas avoir de franges. Mais si c'est une onde, je peux avoir des franges. Donc, je vais voir ici et je regarde ce qui se passe. Alors, cette fois-ci, c'est plus simplement des compteurs, comme ça. Une caméra qui filme. Donc, on filme. Alors, attendez, non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc ce qu'on filme ici, c'est ce qui... J'ai approché, j'ai mis une caméra, et on regarde ce qui se passe ici. Donc il y a des petits photons qui arrivent. Donc vous voyez, ils arrivent. Pas très vite, non? Il faut peut-être que je clique, ils arriveront mieux. Voilà. Donc ils arrivent. On a l'impression au début qu'ils arrivent un peu n'importe comment. Et puis, donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est la somme par colonne. Donc, je somme dans les colonnes. Mais on voit, en fait, assez vite qu'ils n'arrivent pas du tout n'importe comment. Ils s'arrangent régulièrement et ils s'arrangent pour être détectés très souvent à l'endroit où, classiquement, il y aurait une frange brillante et pratiquement jamais à l'endroit où, classiquement, il y aurait une frange noire. Donc là, on en conclut, le photon, c'est une onde. Mais si c'est une onde, ça veut dire qu'il passe des deux côtés à la fois. Et s'il passe des deux côtés à la fois, comment expliquer l'expérience précédente où justement il ne passait pas des deux côtés à la fois? Voilà, donc c'est un petit peu le dilemme auquel on est confronté assez vite. Donc cette expérience, elle a été faite, hein, elle a vraiment été faite à l'ENS Cachan par des collègues. Donc ça montre qu'il y a une bizarrerie, c'est-à-dire si on choisit l'un ou l'autre des deux modèles, on aboutit à quelque chose qui semble logique mais qui est contradictoire avec l'autre expérience qu'on peut faire. Alors on ne peut pas faire les deux expériences en même temps, bien sûr, il faut faire celle-ci ou celle-là, mais elle laisse planer un doute sur ce qu'est vraiment le photon. D'accord ? Peut-être, oui, éventuellement, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là ? Après, ça va encore se corser. Jusque-là, tout va bien ? Ok, alors on continue. Voilà, alors, donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais parler de polarisation de la lumière. En fait, je vais vous raconter la même histoire, mais différemment, et puis en la rendant, en quelque sorte, encore plus paradoxale. S'il était possible, mais vous allez voir que oui. Donc, je vais parler un peu de polarisation du photon. Alors, qu'est-ce que c'est que la polarisation du photon? Donc, vous savez peut-être que la lumière, ça se polarise. Donc, il y a des machins qui s'appellent polaroïdes que vous utilisez si vous faites des photos. Ça, c'est Fresnel qui l'avait trouvé, ou c'est aussi dans les équations de Maxwell. La lumière est ce qu'on appelle une vibration transverse. C'est-à-dire, si elle se propage par là, elle vibre comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Elle vibre dans un plan qui est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est transverse. Donc on peut faire un petit dessin comme ça. Si ma lumière se propage comme ça le long du pointillé, elle peut vibrer dans n'importe laquelle de ces directions. Et puis je dispose de petits objets, des polaroïdes, donc vous avez ça, c'est dans certaines lunettes, qui en fait imposent la direction de vibration. Donc si la lumière passe à travers le polaroïde, après on est sûr qu'elle est polarisée comme ça. Il y a aussi d'autres polariseurs qu'on appelle polariseurs à deux voies. Alors on peut dire que sont devenus les autres. En fait, les autres, ils ont été absorbés par le bout de plastique. Donc, c'est plus pratique de prendre ce type de polariseur qui transmet une polarisation et qui dévie l'autre. Et l'autre qui est déviée, en fait, elle se trouve être perpendiculaire. Et en fait, il n'y a que deux sorties. Donc, quelle que soit la lumière incidente, à la fin, elle peut sortir soit ici, elle est polarisée comme ça, soit là, elle est polarisée horizontalement. Alors, on peut aussi corser un peu l'affaire, dire qu'est-ce qui se passe alors si j'envoie une onde qui fait un angle, qui n'est pas suivant la direction de mon polariseur ici, eh bien ce qui va se passer, c'est que le polariseur va transmettre seulement une fraction de la lumière, et cette fraction de la lumière, c'est cosinus carré de l'angle entre la polarisation initiale et la polarisation du polariseur. Cosinus carré, ça va? Ok. Et puis, si j'en ai deux ici, si j'ai deux sorties, je vais avoir toujours pareil, transmis cosinus carré, et puis le reste, ben, c'est sinus carré. Et la somme des deux fait bien 1, c'est-à-dire que je retrouve toute la lumière que j'ai envoyée. Ça va? Donc ce truc-là, plus transmis égale phi incident cosinus carré, s'appelle loi de Malus. Vous avez vu ça? Non? Pas encore. Mais enfin, ça va comme loi, c'est raisonnable. Ok, donc maintenant, ça c'est classique, hein. C'est Fresnel 1820. Donc maintenant, essayons d'extrapoler ça au photon. Donc le photon, c'est un grain. Donc comment définir l'état de polarisation d'un seul photon? Ben, on peut dire qu'il vibre aussi, il se débrouille, il vibre. Et je vais toujours avoir, si j'envoie mon photon, deux sorties. Par contre, je vous ai dit, le photon, il ne va pas se couper en deux. Donc il va aller soit là, soit là. Donc je ne peux pas avoir des morceaux de photon. Je vais avoir forcément un photon ici ou un photon là. Donc comment interpréter ces trucs-là? Ça ne peut plus être des amplitudes, puisque je n'ai pas l'amplitude d'un photon. Si j'envoie un seul photon, je ne peux obtenir qu'un clic ici ou bien un clic là. C'est tout ce que je peux obtenir. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? C'est encore pas trop compliqué. Évidemment, s'il sort ici, on dira que sa polarisation est verticale. S'il sort ici, qu'elle est horizontale. Et puis, pour retomber sur ses pattes, il faut dire qu'en fait, ces trucs-là, c'est pas des morceaux de photons, mais c'est des probabilités. C'est-à-dire qu'en fait, le photon, je ne sais pas de quel côté il va sortir, mais il va sortir ici avec une probabilité cosinus carré θ, ou ici avec une probabilité sinus carré θ. Et la somme des deux fait 1, c'est-à-dire que mon photon, il sort bien quelque part. Alors pourquoi ça marche? Eh bien, on comprend que si on a beaucoup de photons maintenant, si j'en envoie des tas et des tas, comme un faisceau lumineux intense, je vais avoir le nombre de photons incidents multiplié par cosinus carré ici, et le nombre de photons incidents multiplié par sinus carré ici. C'est simplement une loi de probabilité. vous avez fait un petit peu de probabilité, et on retrouve bien la loi de Malus. Donc si on a beaucoup de photons, le faisceau se partage, et on a un paquet de photons ici, un paquet de photons là. Si on a un seul photon, il ne se partage pas. Il va soit ici, soit là, de manière aléatoire. Alors, il faut bien comprendre que le photon ne se partage pas. Donc, je vais essayer d'attribuer des propriétés à mon photon. Donc, mon photon, s'il passe comme ça, je peux dire qu'il peut être, il aura une polarisation verticale. Et s'il sort par l'autre sortie, il sera horizontal. Donc, je peux attribuer deux propriétés exclusives l'une de l'autre à mon photon, le fait d'être vertical ou le fait d'être horizontal. Tout va toujours bien. Hein. Mais mon polariseur, je peux le tourner. Donc je peux aussi avoir 45 et 135. Et c'est deux nouvelles propriétés de mes photons qui sont aussi exclusives de l'une de l'autre. Mais a priori, ça, c'est pas exclusif de ça. OK ? Alors si vous y comprenez plus rien, donc on va rendre ça classique. Je vais considérer que c'est des propriétés mutuellement exclusives, mais pas incompatibles. Donc, typiquement, H et V, ce sera homme et femme. D'accord ? Donc, c'est des propriétés mutuellement exclusives, en principe. J'en prends deux autres qui sont mutuellement exclusives aussi, blond et brun. Mais c'est blond, d'être blond et brun ou brun, c'est pas exclusif d'être homme ou femme. Donc, en principe, ces propriétés sont les mêmes que celles-là, que j'attribue à mon photon. Tout va bien. Ok, donc on continue. Donc j'ai des hommes ou femmes H ou V, blond ou brun, D ou G ou D. Donc je prends des hommes ou femmes photons en les triant pour qu'ils soient V, par exemple. Donc c'est femme. D'accord ? Alors je peux remettre un autre polariseur V, ça va marcher aussi. Je peux aussi mettre un polariseur horizontal, et là, aucun ne va passer. Donc ça veut dire que les femmes ne sont pas des hommes. Satisfaisant, d'accord ? Je peux aussi mettre un polariseur à 45 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? Ben, en fait, la moitié de mes photons vont passer. Donc, tout va bien aussi. La moitié des femmes sont blondes. Bon, pourquoi pas ? Chez les photons, c'est comme ça. Donc, la moitié des femmes sont blondes. Et puis, je peux mettre le polariseur comme ça. Là, rien ne va passer. Et je vais en conclure de manière irrémédiable que les femmes blondes ne sont pas brunes. Tout va toujours bien ? OK ? Et vous me voyez venir ? Je vais mettre le polariseur comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, la moitié des photons vont passer. Mais la moitié des photons, c'est des femmes blondes. Donc il en résulte de manière irrémédiable que 50% des femmes blondes sont en fait des hommes. D'accord ? La preuve est faite. Donc, je vous ai pas escroqué dans le sens où tout ce que je dis est parfaitement correct dans le monde des photons. Mais je vous avais promis du paradoxal, c'est paradoxal. Alors, pourquoi c'est aussi paradoxal ? C'est parce qu'en fait, on raisonne classiquement. Quand on raisonne classiquement, qu'on a des hommes et des femmes, des blonds ou des bruns, intuitivement, on fait automatiquement quatre catégories, qui sont les femmes blondes ou brunes, les hommes blonds ou bruns. Et puis après, on se définit dans une de ces quatre catégories. Mais un photon refuse absolument de faire ça. Un photon, il peut simplement répondre « Êtes-vous un homme ou une femme ?» Il répond « Homme ou femme ». Ou répondre « Êtes-vous blond ou brun ?» Il répond « Blond ou brun ». Mais le fait de savoir qu'il est blond ou brun interdit de savoir si c'est un homme ou une femme. Et réciproquement. Donc, en fait, ce raisonnement classique, c'est qu'on attribue une propriété supplémentaire au photon, parce que classiquement, on peut toujours le faire. Si vous avez deux objets qui ont l'air identiques, vous trouvez une petite différence. Deux photons, vous ne trouverez pas de petite différence. La physique interdit de trouver la petite différence. La physique interdit de leur rajouter une propriété supplémentaire, par exemple d'être blond ou brun si c'est des hommes ou des femmes, qui permettrait de les distinguer. En gros, leur réponse est toujours binaire. Ils répondent par oui ou par non à n'importe quelle question, quelle que soit la question, et la réponse à une question interdit de connaître la réponse à une autre question. Ce qui est un comportement pour le moins bizarre, mais c'est tout à fait celui des photons. Et je vous ai dit aussi qu'il y avait une correspondance avec le précédent, disons, là c'est particulièrement marrant, pas avec mes polarisations, mais en fait, la logique de l'affaire est exactement la même que onde ou corpuscule. Vous pouvez choisir, décider par exemple que onde ou corpus, homme ou femme, c'est je passe à droite ou à gauche dans l'interféromètre tout à l'heure, et puis je suis là ou je suis là, c'est je vais sur une frange noire ou je vais sur une frange brillante. Donc en fait, c'est le même effet qu'on voit ici, mais présenté de manière un petit peu différente et un peu plus visible, disons. Voilà, donc il a fallu dans les années 30 que les physiciens se dépatouillent avec ça, et pour ça ils ont inventé la mécanique quantique. Donc ça a été trouvé à la fin des années 20, on peut dire que c'est un candidat à la plus grande aventure intellectuelle du XXe siècle, c'est-à-dire en fait c'est plus déroutant que la relativité, c'est plus déroutant que la psychanalyse, si on veut, encore que ça puisse se discuter. C'est à la base de notre compréhension physique du monde. Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, on m'avait posé cette question-là, c'est que classiquement, en fait, le monde est incompréhensible. Parce que la matière n'est pas stable. On vous a dit, un atome, c'est un électron qui tourne autour d'un noyau. On vous l'a dit plein de fois. Hein. Bon, vous êtes fait complètement escroquer. Parce que si l'électron il tourne autour du noyau, c'est une charge accélérée. Une charge accélérée, ça émet du rayonnement, donc ça perd son énergie, donc ça tombe sur le noyau. Et si on peut faire un petit calcul, ça prend à peu près 10 milliardièmes de seconde pour que tous les électrons tombent sur tous les noyaux, et on n'en parle plus de rien. D'accord ? Donc, classiquement, la matière n'est pas stable parce que les électrons devraient tomber sur les noyaux. Et s'ils ne tombent pas sur les noyaux, c'est à cause de la mécanique quantique, dans le sens où la théorie quantique explique, je ne vais pas vous faire, enfin, je peux vous en dire un peu plus, mais dans la théorie quantique, l'électron ne tombe plus sur le noyau, alors que dans la théorie classique, il tomberait. Donc, si vous voulez, et c'est pareil aussi, un autre effet, c'est que un électron, même si on arrive à imaginer que l'électron, il soit stable autour de son noyau, l'atome, il est presque vide, puisque c'est un tout petit électron qui tourne autour d'un tout petit noyau. Donc, les différents atomes devraient s'interpénétrer. Et à nouveau, la matière devrait s'effondrer. Donc, la table est solide à cause de la mécanique quantique. D'accord ? Donc, ça explique la matière, la lumière, les interactions entre la lumière et la matière. En termes de technologie, ça a d'innombrables applications, donc le laser, j'en ai déjà parlé, toute l'électronique, l'informatique, il y a beaucoup d'applications maintenant en médecine, en biologie. Donc c'est pas une théorie exotique, c'est ce que je veux vous dire, c'est une théorie qui d'une part est indispensable à notre compréhension du monde à l'échelle fondamentale, et puis ça a aussi plein d'applications. Mais, c'est bizarre. Donc ça conserve un caractère mystérieux. C'est intrinsèquement non déterministe, parce que je vous dis, votre photon qui va aller à droite ou à gauche, on ne peut pas savoir, mais c'est interdit par la physique. Donc on peut dire, Dieu lui-même ne peut pas savoir, sinon, d'accord, ça n'irait plus. Donc il y a un non déterminisme intrinsèque qui est indispensable à la théorie, sinon elle deviendrait autocontradictoire. Elle est aussi non locale, alors ça je ne vais pas en dire grand-chose, sauf si on me pose des questions, mais elle est non locale. Et puis, visiblement, entre mes photons qui sont des hommes ou femmes, des femmes blondes qui se transforment en hommes, ça ne correspond pas à notre expérience macroscopique. Donc le passage entre les objets microscopiques, les photons, et les objets macroscopiques est difficile à expliquer. On sait le faire dans une certaine mesure, mais on considère que ça demeure une difficulté de la théorie. Voilà, donc là je suis presque au bout. Je peux dire, au moins vous montrer ça. Alors, toutes ces propriétés bizarres, je vous dis, la mécanique quantique, c'est une théorie extrêmement puissante, qui explique beaucoup de choses, mais en un certain sens, les propriétés les plus bizarres dont je vous ai parlé, le fait que, quand on demande, êtes-vous homme ou femme, c'est incompatible avec le fait de savoir si on est blond ou brun, ça n'a pas encore été exploité aussi, disons, intensément qu'on le souhaiterait. Donc il y a un nouveau domaine de recherche qui est apparu à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, qui développe l'idée suivante. Peut-on utiliser le photon et les objets quantiques en général pour transmettre ou traiter plus efficacement l'information? Donc est-ce qu'il y a moyen de faire des choses en utilisant justement ces bizarreries quantiques qu'on ne pourrait pas faire si on restait dans le monde classique? Donc il y a deux choses qui sont très, très étudiées. Il y en a une qui s'appelle la cryptographie quantique. Donc c'est l'idée de transmettre des messages secrets en utilisant des photons en particulier, principalement parce que, justement, quand on regarde un photon, on ne peut pas savoir ce qu'il est. On ne sait pas s'il est onde ou corpuscule, et si on exploite ça astucieusement, on peut s'en servir pour transmettre des messages secrets. Et puis il y a aussi des idées de ce qu'on appelle le calcul quantique, c'est-à-dire si on calcule avec des objets quantiques, avec des atomes individuels, des photons individuels, on peut dans certains cas aller exponentiellement plus vite, c'est-à-dire faire des espèces de superordinateurs qui calculeraient plein de choses en même temps et extrêmement vite. Donc, comme je suis un petit peu au bout de mon temps, alors je voulais vous parler de la cryptographie quantique. Ce serait peut-être mieux de passer aux questions. Je peux le faire. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une idée? Je peux en parler si vous me le demandez, disons. mais je vais peut-être plutôt m'arrêter et puis solliciter quelques questions. Donc, juste peut-être pour vous montrer la conclusion de mon affaire. Disons ce sur quoi je voulais insister en conclusion. Je peux revenir sur la crypto-quantique si vous voulez. C'est un peu ce que je disais au début, la mécanique quantique est une révolution, elle a été imaginée en grande partie comme une espèce de théorie statistique qui décrit le comportement d'un grand nombre d'atomes, d'un grand nombre de photons, parce que c'est ça que les gens avaient à l'époque où ils l'ont inventé. Et depuis 20 ans, il y a quelque chose qui a changé complètement, c'est que maintenant il existe une multitude de technologies qui permettent d'arriver directement au monde des atomes. C'est-à-dire, quand je vous dis, prendre un seul atome, dans notre laboratoire, on le fait tous les jours. Donc prendre des atomes uniques, des photons uniques, les faire interagir, les manipuler. On voit tous ces trucs bizarres, ça nous saute à la figure en quelque sorte, parce que c'est comme ça que se comportent les atomes, les objets qu'on manipule, et ils sont devenus faciles à manipuler. Donc toute cette dynamique des objets quantiques individuels et non plus d'ensemble statistique a en fait ouvert un nouveau domaine à la science depuis donc 25 ans à peu près, qui est relié à ce qu'on appelle les nanotechnologies. C'est l'aspect quantique des nanotechnologies. Et puis toutes ces propriétés paradoxales, dont j'ai un peu parlé, ont en fait des implications sur la théorie de l'information. C'est-à-dire, la façon dont on traite l'information, dont on réfléchit sur ce qu'est l'information, est essentiellement classique. Mais on peut la rendre quantique, et à nouveau, ça ouvre des perspectives à la fois sur la mécanique quantique et sur l'information elle-même, qui sont extrêmement étudiées. Voilà, donc ce que j'ai voulu vous montrer, on a une heure pour des questions, c'est bon d'illustrer ces idées à partir de la lumière, qu'elle soit onde ou corpuscule, en fait, joue un rôle particulièrement éclairant dans tous ces effets, et depuis le tout début, et c'est pas fini, ça va durer encore. Voilà, je vous remercie.